La chronique de Marc Boilard, présentée par le groupe Saillant et ses 5 concessions. Option Subaru, Laurier Mazda, 5 fois Toyota, 5 fois Hyundai et Saillant Autocrédit.
508, on rejoint notre ami comme à tous les jours aux alentours de 16h, qui veut d'abord, avant d'aborder ces sujets, nous parler de ce qu'on a dit tantôt à propos de la mémoire, les pertes de mémoire dues à la pandémie. Ça peut arriver, pas à moi, mais à certains. On rejoint donc Roger Boilard. Roger, bonjour.
Merci. Salut, Paul. Écoute, je voulais justement te dire que moi, j'ai aucun problème avec ma mémoire.
Moi non plus. C'est ben réglé. Voilà, alors, on passe à autre chose.
De parler avec Sylviane puis avec Stéphane aussi aujourd'hui. C'est génial.
Et tu parles du match des Nordiques d'hier, évidemment.
Exact. J'ai trippé, mon gars. J'étais là, en haut, puis les tirs. Mais pour être honnête, tu m'as beaucoup rassuré tantôt. D'abord, 4 jours sans vous parler, je dois avouer que ça m'a manqué. Faut que je le dise très honnêtement.
Appelle-nous dans ce temps-là, voyons là.
Je sais, mais j'ai trop d'affaires. c'est ça, je sais pas si ça va rentrer, mais en tout cas. Bref, tout ça pour dire que tu m'as rassuré tantôt, je suis en train de parler, puis j'ai vu un excellent film en fin de semaine, Riders of Justice. Ouais. Je t'en parle pour deux raisons. La première, parce que c'est vraiment très bon. C'est sur, tu le loues sur, quand voyons, iTunes, là, tu sais, c'est sur Apple. Mais je t'en parle aussi parce que Sylvain, il a fallu que je l'écrive sur la feuille. Je suis jamais capable. Je l'ai vu samedi. Je l'ai pas vu il y a 8 ans. Je suis jamais capable de me souvenir du titre.
Moi, je suis là-dedans aussi. On en a parlé.
Mais là, tu m'as rassuré.
C'était le fun. Mais oui. C'est tellement logique. C'est logique ce qu'elle dit, là.
Oui.
La monotonie, toujours les mêmes choses. Il n'y a pas d'association avec d'autres événements. Tout ça. Un petit peu de stress au travail. Moi, je suis prêt à me mettre aussi. Là, pour tout le monde, ça a été un petit peu stressant.
Mais pour les noms, Sylvain, ça fait dur, mon enfant. Sérieux, là. C'est vraiment. Puis c'est exceptionnel. Puis moi, j'ai des petites inquiétudes. Je suis le fils d'un homme qui est mort d'Alzheimer, mon père.
Ouais.
Ça fait que tu fais comme coudon. Tu sais, t'es toujours un peu nerveux, hein? Je l'avoue.
Tout le temps.
Oui. Mais bref, je pense que c'est tout à fait normal. Donc, j'avoue que ça m'a rassuré. Parlant de retourner en arrière, 1975, je commence avec ça aujourd'hui. C'est une nouvelle que j'ai vue sur France Info, je sais pas trop. Ils font actuellement un tournage dans un grand bassin connu, là, sur les côtes de la France, avec Cadmerade qui a joué dans Les Ch'tis. Si vous avez pas vu Les Ch'tis, c'est vraiment une excellente... Hein, Fès, c'est-tu
ben
bon?
Ben oui.
Superbe comédie, fantastique. Donc, c'est avec Cadmerade et c'est un genre de, c'est pas exactement, mais un genre de remake de Requin, donc de Jaws. Et là, j'étais fasciné. Ah ah, Jean Dédé en plus qui met. C'est la musique, mon Dieu, c'était juste la musique, je suis terrifié.
C'est la meilleure musique de film d'horreur de tous les temps. Ça peut pas être juste la musique était peu, hein?
On a l'image en entendant.
Ah, tout de suite.
C'est John Williams, hein? C'est lui qui a fait aussi tous les films de Spielberg.
Ouais.
Je vous en parle pourquoi? Parce que je veux vous raconter. Comment j'ai vu ce film-là, puis l'effet que ça a eu sur moi. Et j'implore les gens de 50 ans et plus, 25-26, de dire, est-ce que vous autres aussi, ça vous est arrivé, ce que je vais vous raconter? J'avais 11 ans en 1975, OK? C'est tiré d'un livre qui est sorti juste l'année d'avant.
Moi, ça m'est pas arrivé, c'est 11 ans en 75.
Non? OK, déjà, bon. Ben écoute, je vais continuer à parler à ceux qui étaient là. En 1975, donc, je suis né en 66, j'avais 11 ans. Et mes parents, c'est le seul souvenir que j'ai, on est allé au Cinéparc Beauport. Écoutez ce film-là qui était 13 ans et plus. Mais là, tu as 11 ans, tu fais comment, c'est pas grave ou peu importe. Ça fait que, puis je me souviens que j'étais assis en arrière, tout, j'ai un souvenir très clair. Et là, on écoute le film, qui est hallucinant d'horreur, c'est comme si c'était complètement terrible. Et je vous le dis, c'est pour ça que je veux savoir, suis-je le seul à qui je parle actuellement, puis qui nous écoute, je n'ai pas mis le pied dans l'eau de tout l'été. Je vous le jure. Alors, vous allez dire, c'est parce que tu avais 11 ans. Je pense que si on pouvait avoir une étude de toutes les côtes américaines, en Floride, en Californie, l'été 1975, tu sais, avec des satellites, mettons, je suis sûr qu'il y a eu moins d'activité dans l'eau. J'ai eu peur au lac au sable. J'étais pas cave. Je sais bien qu'il y avait pas de requins techniquement.
Techniquement,
mais je ne me suis pas baigné de l'été.
Il dit, n'avait pas techniquement.
Techniquement,
une porte ouverte pareil.
Mais je comprends, Marc. Moi-même, dans une piscine, si je pense qu'il y a un requin, c'est sûr que je sors, alors que je sais très bien que c'est impossible qu'il y en ait un.
Marc a raison. Ce film-là a eu cet impact-là. Ça a d'ailleurs été un peu documenté, tu sais, parce qu'ils font souvent des sondages, concernant les animaux les plus dangereux pour l'homme. Et à partir de ce film-là, on dit que c'est, entre autres, ce film-là qui a donné une très mauvaise réputation au requin. Si vous regardez sincèrement les chiffres, le requin est pas là-dedans, mais zéro. Là. Oui, de temps en temps, d'abord, c'est le requin blanc. Les autres requins sont à peu près pas dangereux, mais qui tuent un peu encore de temps en temps. Mais comparé à des animaux comme des serpents, ou encore l'animal le plus meurtrier pour l'homme, vous savez c'est lequel?
Oui,
et de loin.
Je
le
sais, mais je le dis pas.
Personne
c'est le...
qui va
parce que les gens sont toujours lions, sont toujours n'importe
quoi.
Le chien. Non, c'est le maringouin.
Hein?
Oui, c'est le maringouin de 1, mais même pas serré, là, des millions de morts.
OK. Parce que l'hippopotame aussi, tu
vois. L'hippopotame est 2. L'hippopotame est 2.
OK.
Mais même pas serré, parce que le maringouin transmet des maladies.
Ah oui, c'est ça. Oui. C'est pas sa piqûre comme telle qui est si dévastatrice.
Non, c'est tout ce qu'il apporte dans le sang, etc. Le maringouin, allez voir ça sur Internet. J'ai vu ça, c'est clair. C'est nettement. Puis il n'y a aucun film.
As-tu imaginez... fait tes recherches, toi, là?
Ben oui. Imaginez la petite musique que Jean Dédé a mis tantôt, mais avec un maringouin. Alors, le requin a vraiment fait en sorte que le film Jaws, pardon, a donné une très mauvaise réputation. Et ça a aussi donné lieu, à mon avis, là, ça a été battu. Mais quand t'allais à Walt Disney, à Universal, pardon, ça c'est Universal, le manège de Jaws était un des plus spectaculaires.
Je l'ai fait. C'est à Universal.
C'est ça que j'ai dit. Ouais, je me suis trompé avec Disney, mais c'est à côté.
T'as le gros requin à fin qui sort, qui ressemble au bout d'ailleurs, là, qui est énorme. Bon. Tu restes bête. Hein?
Ouais. Avec le gars qui essaie de le tirer parce que ton guide, là, sur le bateau, joue le jeu un peu. Là, t'es supposé partir une petite croisière bien ordinaire, puis m'amener le requin arrive de tous les bords, ça explose, puis il tire dessus.
C'est vraiment. Quand est-ce que t'as fait ça? Je savais même pas que t'étais allé.
10 fois, genre, là.
Quoi?
Il organisait des voyages pour aller là.
J'étais un fou de Disney.
Dans le temps que tu faisais ça.
Je suis vraiment j'adore ça. Tu m'as d'ailleurs déjà dit que je suis battu. Je pensais être un des grands fans de Disney par un de tes amis. Mike Ward. M'as déjà dit ça, que lui aussi était très
lui et sa femme. Mais là, maintenant, ils se sont calmés. Mais je veux dire, il y a, vu qu'il y a un condo à Orlando, imagine, c'est pas un hasard, il y avait sa passe de résident.
Puis il y allait, genre...
Oui, all you can eat. Là, pour lui, c'était comme Expo Québec. Il n'y a pas de...
Non, mais je le comprends. C'est vraiment, vraiment le fun. Moi, je suis allé donc à peu près une dizaine de fois. Puis King Kong et Jaws demeurent des incontournables, même si depuis ce temps-là, ils ont été battus un peu. Là. Tu veux me parler d'un phénomène que je ne connais pas. Le nudge.
Le nudge.
Qui ici, Karen Vez?
Nudge.
Ouais, Marc va nous expliquer c'est quoi.
Le nudge, puis ça, c'est très intéressant parce que ça a été amplifié avec la pandémie à peu près partout dans le monde. Je vais commencer avec une grande hypothèse complotiste. C'est pas mon genre, hein? Je pense que le gouvernement du Québec utilise le nudge. Vous allez voir pourquoi. J'ai un exemple. Le nudge, qu'est-ce que c'est? Le titre dans Le Monde d'aujourd'hui, COVID-19, le nudge ou convaincre sans contraindre. Comment le gouvernement s'est converti à cette discipline? C'est le titre d'un livre, Sylvain, qui a donné d'ailleurs le prix Nobel d'économie à son auteur et son co-auteur qui s'appelle Richard Thaler.
Wow.
Le nudge, c'est ça, littéralement. C'est, dans le fond, c'est que ça part comme principe que c'est pas vrai. On pense. On est tout le temps en train de dire, moi, je fais attention de prendre de grandes décisions. On est convaincu que nos décisions, incluant un complotiste, sont très éclairés, plus que le voisin, etc. Dans vraie vie, règle générale, c'est démontré, on prend des décisions basées sur le statu quo. C'est-à-dire que si j'ai la chance de prendre pour le même prix la même paire de jeans que j'achète tout le temps ou d'essayer une nouvelle, qu'est-ce qu'on fait? On garde le statu quo. Ça, c'est régulier. Alors, il y a des gens qui sont un petit peu plus ce qu'on appelle des innovateurs. Ils font partie d'un petit pourcentage que quand il y a de quoi qui sort, sont les premiers à tomber dessus, mais c'est un petit pourcentage. Et en politique, ça s'applique de plus en plus, donc avec des firmes d'experts, pour faire en sorte que le gouvernement, au lieu d'interdire, va inciter. Alors, tu vas voir que mon entonnoir va finir avec la fameuse liberté individuelle, mais plus tard. Ça fait que tu vois ça dans le commerce, puis tu vois ça en politique. Entre autres, l'application... Tous anti-COVID en France, le slogan, c'était « Déjà 10 millions de Français l'ont adopté ». Il aurait pu dire plein d'autres affaires. Quand tu vas à l'hôtel, je suis sûr que récemment...
Mettons, on fait une pub en disant « Abonnez-vous à l'application COVID, vous devez le faire, faites-le ». Là, tu essaies un peu de forcer, mais là, ce que Marc dit, c'est en disant, là, c'est brillant, « Déjà 10 millions de Français l'ont fait ». Là, il t'incite, il t'influence, mais
c'est
sans...
C'est toi qui prends la décision.
T'as l'impression, mais en réalité, c'est parce qu'on t'a rappelé qu'il y en a 10 millions d'autres qui l'ont fait, puis on a tendance à vouloir imiter les voisins. Je comprends la nuance, là.
OK. Hein? Veux-tu voir un autre exemple que je suis sûr que t'as vu dans les hôtels? Qui n'a pas lu? Puis c'est récent. On a vu ça avec toute la tendance écologique. Et ça. Qui a pas vu le message suivant dans un petit panier dans la salle de bain? 75% des clients de cet hôtel réutilisent leurs serviettes.
Oui, t'as raison. Ouais, ben oui.
On se sent cheap.
Voilà.
Ouais, là, c'est comme...
Tu veux pas en mettre dans le bain, là?
Ouais. Mais c'est brillant.
OK. Maintenant, c'est démontré que Barack Obama avait dit ouvertement qu'il avait lancé un peu une espèce de petite unité de communication sur laquelle il avait intégré dans sa prise de décision, etc., le gouvernement français. Écoute, c'est pas grave, hein, c'est de la com. Je veux dire, moi, je l'ai toujours dit, de la politique, c'est de la com puis de la psychologie. Ben avant d'être, j'ai lu le programme. Mais qui n'a pas remarqué, en tout cas si c'est pas le cas, je vous fais remarquer, les publicités depuis le jour 1 du gouvernement du Québec, il y en a plein là, sur les ondes de radio ici, au 93, excuse-moi, si tu rentres sur le site internet, t'en as une tout de suite. Celle qui roule actuellement, c'est deux personnes avec des jeux de mots. Hey, j'ai pris le vaccin danse parce que j'ai hâte de reprendre la danse, etc. Qui a vu dans les publicités, dites-moi si je me trompe, depuis le début de la pandémie, une seule publicité qui rappelait qu'il y avait des amendes si on n'obéissait pas aux restrictions?
Il n'y en a pas eu tant que ça. J'essaie, moi aussi, là, mais ma mémoire défaillante en raison de la COVID, comme on disait tantôt. Mais non, mais je suis... Attention, si vous faites un party chez vous, 1500 ou 5000...
Non, c'est dans les points de presse.
Ils disent que les regroupements à domicile sont interdits, mais ils ne parlent pas d'amende.
Jamais. Ils disent, lavez-vous les mains, mettez votre masque. On a eu... Moi, tu sais que, fan de cinéma, je suis retourné au cinéma souvent. C'est juste la dernière pub avant que les previews des films à venir, c'est une pub anti-COVID, mais qui fait juste nous rappeler c'est quoi les mesures. Ils disent pas, on va te taper ses doigts, ils font rien. C'est que le nudge, c'est ça. Basé sur l'idée que, dans certaines circonstances, faut pas faire bien attention, inciter est meilleur qu'obliger. Parce que si inciter est toujours meilleur qu'obliger, Sylvain, la police serait inutile. C'est là qu'on en arrive avec la notion des libertés individuelles. Parce que dans la pandémie, on a entendu énormément de combats entre la liberté individuelle puis le collectif pour faire en sorte qu'on va passer par-dessus la pandémie. Puis ça, c'est rendu là, c'est quasiment philosophique. Parce que un peut dire c'est épouvantable parce que ce qui va arriver, c'est que si on prend ces habitudes-là, blablabla, puis de l'autre bord. Moi, je pense que ce combat-là, il est intéressant. Moi, je suis pas un parti prenant, si tu veux, activiste de la liberté individuelle. Je suis pas un libertarien, si tu veux. Mais il reste que c'est quand même quelque chose qui est tout à fait valable. Le problème avec l'idée de la liberté individuelle, c'est que poussé à son paroxysme, c'est quelque chose qui existe déjà. Ça s'appelle la loi de la jungle. OK, l'antilope, là, elle peut pas se plaindre de rien, elle. La loi de la jungle, c'est la loi du plus fort. Ça fait qu'à un moment donné, c'est là-dessus qu'il peut avoir une dérive de ce côté-là, tout comme il peut avoir une dérive du côté de on enferme tout le monde, on traque tout le monde, etc. T'sais. C'est que le nudge, c'est intéressant, c'est littéralement une façon de dire, on comprend qu'à quelque part, on a le pouvoir, le gouvernement, on peut donner des tickets, on peut faire plein d'affaires qui restreignent les libertés, mais en même temps, on comprend que c'est pas en faisant ça qu'on va avoir le meilleur efficacité, basé sur l'idée, c'est pour ça que le gars a gagné un prix Nobel, basé sur l'idée qu'on a toujours des biais quand on décide. Je te donne une autre illustration. Il y a une énorme différence entre j'ai une décision à prendre, je veux prendre la meilleure décision versus je veux pas me tromper. Ça a l'air pareil, hein, mais c'est pas pareil, Sylvain.
Ouais.
Quand tu veux gérer le risque parce que tu as ce profil-là, il y a beaucoup de monde dans la vie, ils vont pas l'avouer, mais leur mantra, c'est de ne pas se tromper. Je vais te donner un exemple. Un artiste avec qui je travaillais, très populaire, me disait tout le temps, quand j'y offrais, j'étais son gérant, quand j'y offrais, mettons, je disais, hey, t'as été appelé pour telle affaire aussi, qu'est-ce que tu penses, tel projet, son analyse, là, il verbalisait, il disait tout le temps, ben, je vois rien de négatif. Fait que, est-ce qu'il voulait vraiment faire ce qui était la meilleure chose? Où il voulait pas se tromper.
Il voulait surtout pas se tromper. Fait que s'il voulait, il voyait rien de négatif, ça veut dire, je vais le faire, il n'y a pas d'erreur. Mais c'était pas comme, yes, j'adhère à 100% à l'idée, puis go, là.
Puis il y a des acheteurs, je nommerai pas les compagnies, mais selon, parce que moi, depuis 15 ans, je suis avec le groupe Saillant, c'est que tu finis par connaître un peu ça, l'industrie automobile.
Ouais.
Il y a des marques automobiles où, littéralement, quand les gens arrivent, là, ils ont leur « protégez-vous dans une main », ils ont, comprends-tu, ils ont fait toutes leurs fameuses, eux autres, ils ont fait leurs recherches, là. Puis tu comprends que, ils viennent pas chercher un véhicule pour prendre le véhicule qui les rejoint le plus dans ce qu'ils veulent d'une auto. Ils veulent pas se tromper. Ils sont stressés de se tromper. Rappelle-toi, je t'en ai parlé, le test du magazine Marmalade, qui disait qu'il y avait un nombre qui était à quelque part entre 9 et 12. C'est ça que l'étude avait montré. Entre 9 et 12, c'est le nombre de choix idéal. Si je te montre moins que 9 choix, tu vas te dire, Caroline, j'ai peut-être pas eu assez de choix pour acheter mon t-shirt, pour n'importe quoi. Puis si je t'en montre plus que 12, t'en as trop. Regarde les restaurants de pizza, Sylvain, des fois qu'ils mettent 50 sortes de pizza, mais dans le fond, c'est pepperoni, fromage, piment vert, tu sais, je veux dire, c'est ridicule. Mais combien de temps on perd à regarder le menu? On le sait. C'est quoi qu'on veut, une pizza? Franchement, pas obligé d'avoir des suggestions. Plus tu montes de choix, plus tout à coup, il embarque un stress qui fait en sorte que tu dis, je vais peut-être me tromper. C'est que le nudge, c'est ça. C'est de pouvoir d'étudier un peu comme littéralement comme une agence de pub, puis de dire que les politiques, quand vient le temps de les communiquer, on tient compte de ce qui va être la vraie application, qui n'est pas tout le temps juste de dire « faites ci, sinon il va arriver ça ».
Sur le terrain, merci Marc. Merci Salut. Beaucoup. On se reparle demain, 16h23, au FM 93. Une très courte pause.
La chronique de Marc Boilard, présentée par le groupe Saillant et ses 5 concessions. Option Subaru, Laurier Mazda, 5 fois Toyota, 5 fois Hyundai et Saillant Autocrédit.